proposerai deux lectures pour ce moment de méditation. Le premier passage se trouve dans le Nouveau Testament, les deux textes se trouvent dans le Nouveau Testament. Le premier passage se trouve dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 39. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut être condamné? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore les persécutions, la faim, les privations, le danger, la mort? Et comme le déclarent les Écritures, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie, mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Après la deuxième lecture.
Après la deuxième lecture, d'accord. Alors avant de faire entendre la deuxième lecture, vous dire que j'ai eu beau chercher dans la Bible, je n'ai trouvé aucun récit de baptême d'enfants de 4 ans ou de 6 ans. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte que une certaine Lydie, marchande de pourpre, fut baptisée ainsi que toute sa famille par Paul. De même, un gardien de prison et tous les siens. Alors probablement, y avait-il dans ces familles-là des enfants de l'âge d'Octave et de Céleste, mais ont-ils été baptisés eux aussi? Ou bien le baptême était-il réservé en ces temps-là aux seuls adultes? On ne le sait pas très bien. En fait, si l'on accepte le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, la Bible ne nous parle jamais en détail du baptême. Il est simplement noté au détour d'une phrase, « Ce jour-là, un grand nombre furent baptisés. » Ou bien « Pierre ordonna de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Mais on ne nous dit pas comment les choses se passaient, ni quels gestes étaient pratiqués à cette occasion. Sauf dans ce texte que je vous invite à écouter et à méditer maintenant. Il se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 26 à 40. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt, et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, chargé d'administrer le trésor de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Isaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants, car on a mis fin à sa vie sur terre ? Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Puis il arrêta le char, Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Et Philippe se retrouva à Azote, où il passa de ville en ville, en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Seigneur, ta parole est la vérité, garde-nous, guide-nous dans la vérité. Amen. S'interrogeait sur les anges. Ils n'ont pas tort parce que les anges du Seigneur ont toujours de drôles d'idées. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il est désert. » Pourquoi cet ange décide-t-il d'envoyer Philippe dans le désert ? Alors qu'il nous est précisé au chapitre précédent que lorsqu'il était en Samarie, c'était un prédicateur hors pair, suscitant des conversions en grand nombre, un vrai témoin du Christ dont le message provoquait de la joie et s'accompagnait de signes visibles de guérison. L'envoyer dans le désert, c'est une erreur de casting manifeste. Philippe va y perdre son temps. Avec sa personnalité, ses charismes, il aurait pu faire de l'évangélisation de masse à Jérusalem, à Antioche, à Corinthe, peut-être à Rome. D'autant qu'à feuilleter le livre des Actes, si vous le faites, il semble que parmi les autres disciples de Jésus, certains n'ont pas une activité débordante. En tout cas, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Les anges auraient pu les secouer un peu et les envoyer, eux, dans le désert. Mais dans l'Église primitive, même inspirée par les anges, on avait déjà pris l'habitude de toujours tout demander au même. C'est tellement plus simple de se tourner vers ceux qui ne savent jamais dire non. Alors Philippe, comme Abraham autrefois, obéit sans discuter. On lui demande d'aller prêcher dans le désert, il y va, sans chercher à comprendre ce choix qui semble défier la logique humaine, sans réclamer d'en savoir davantage sur les projets de Dieu. Le Seigneur a probablement ses raisons. Et puis, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Attitude d'obéissance, de confiance, d'humilité, à méditer dans nos églises, qui ne conçoivent trop souvent l'évangélisation qu'en termes d'efficacité, de visibilité, sous forme de grands rassemblements, de concerts, de conférences dans les stades, ou des salles de spectacle qu'on rêve de remplir. Sortons de nos fantasmes. L'évangélisation, c'est d'abord le témoignage individuel. C'est une présence discrète dans les déserts spirituels de nos contemporains. C'est une parole fragile, mais fraternelle et affectueuse, qui est dite au solitaire, à celui qui se débat dans la nuit de ses questions, avec ses peurs et ses souffrances. Et l'ange du Seigneur appelle Philippe à cette évangélisation-là, dans le désert. En fait, il n'est pas tout à fait désert, le chemin de Gaza. Il y a quelqu'un. Un homme que nous apprenons vite à connaître, c'est un Éthiopien et c'est un eunuque, un étranger et un être à part dans le registre corporel. Selon la loi juive, cela le classe parmi les exclus des assemblées du peuple d'Israël. Sa castration le rend impur. Malgré tout, cet homme croit en Dieu. Peut-être est-ce un prosélyte, un nouveau converti dans la foi juive, et bravant tous les interdits et certainement les regards réprobateurs, il fait son pèlerinage à Jérusalem. Il s'est même approché du temple, lieu symbolique où Dieu est célébré et où il se révèle. Bien sûr, l'homme s'est tenu discrètement, à distance, derrière un pilier, à l'écart des maîtres de la loi et des pharisiens, tel le péager de la parabole. Peut-être s'accroche-t-il aux surprenantes promesses du prophète Ésaïe, qui annonce que les eunuques et les étrangers seront agrégés au peuple de l'Alliance. D'ailleurs, Ésaïe est son prophète préféré. C'est ce livre des Écritures qu'il aime bien lire et relire, parce qu'il y trouve une parole particulière, personnelle, que Dieu lui adresse et qui est pour lui, pour sa vie, pour son histoire, une bénédiction. Puisque sa situation sociale, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, lui en donne les moyens, notre personnage a probablement acheté à Jérusalem un de ces coûteux manuscrits de la Bible, un rouleau du prophète Ésaïe. Et il dispose de tout le temps nécessaire pour sa lecture, depuis Jérusalem jusqu'en Éthiopie, en char. Apparemment, il ne croise pas grand monde. Calme, solitude, il n'y a rien de mieux. Sans déranger personne, Il peut lire à haute voix, comme l'encourage la tradition juive, afin de bénéficier davantage des bienfaits de cette méditation, puisque deux sens, la vue pour la lecture, l'ouïe que l'on entend, entrent en fonction. Seulement, le passage est difficile. L'eunuque a beau le lire, le relire, il ne le comprend pas. La Bible, tout à coup, lui paraît aussi aride que le désert de Gaza. Certes, l'homme est cultivé, il comprend chaque mot, il comprend chaque phrase, mais la difficulté n'est pas dans le sens des mots, des phrases. Elle réside dans la question de l'identité du personnage décrit par ce texte. Il a été mené, il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié. L'eunuque la bute sur ce « il », anonyme, mystérieux, tout en percevant qu'il se joue là quelque chose de fondamental pour l'humanité, dans l'abaissement de ce « il » dont il est question. De qui s'agit-il ? À la décharge, mes amis, de l'eunuque éthiopien, il faut dire que sa propre question a été celle aussi des commentateurs de tous les temps, et ce ne sont pas les livres de théologie qui manquent sur ce sujet. Qui donc est ce serviteur souffrant évoqué ici ? Un prophète, persécuté dans le temps passé ? Ésaïe lui-même, l'un des auteurs du livre qui porte ce nom ? Le peuple d'Israël, souvent appelé serviteur de Dieu et tout aussi souvent persécuté ? Le petit reste, fidèle parmi les fidèles dont parlent les Écritures ? Question. Question sans réponse. Mais le Seigneur et ses anges veillent. Ils ne veulent pas laisser notre homme plus longtemps dans le questionnement. Peut-être a-t-il prié avec ferveur pour recevoir une lumière, comme nous ne savons pas toujours le faire lorsque nous butons sur un passage de l'Évangile ou de la Bible. Si on lit la Bible, bien sûr. L'Éthiopien cherche Dieu de tout son cœur, mais il lui manque encore une étincelle qui le fera rencontrer. Vous savez, c'est ce pas difficile à franchir qui nous fait passer du « je crois que Dieu existe » au « je crois en toi, Dieu ». Philippe entre donc en scène. Généralement, on marche dans le désert, lui, il arrive en courant, et l'on est tout de suite dans le vif du sujet. « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et l'Éthiopien d'inviter Philippe à monter avec lui dans son char. La loi de séparation des églises et de l'État n'avait pas encore été promulguée. Vous imaginez un ministre des Finances inviter un pasteur dans sa voiture pour qu'il lui fasse une étude biblique. Mais pour le ministre de Candace, peu importe le qu'en dira-t-on. Peu importe les reproches qui ne manqueront pas, puisqu'il est un homme public, de ne pas savoir condamner ses convictions religieuses dans la sphère privée de son existence. Il a besoin de lumière sur sa lecture, il veut un guide. C'est le mot du texte grec. Il veut un guide qui le conduise sur le chemin de ce personnage mystérieux dont parle Ésaïe et dont il pressent qu'il pourrait bouleverser fondamentalement sa vie. Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Et je suis admiratif devant l'attitude de Philippe, son comportement. Il ne force rien. Il se laisse inviter, il est là, disponible pour le dialogue, et aussi pour dire ce qui l'habite, lui, au plus profond de sa personne, ce qui donne du sens à son existence, le salut offert en Jésus-Christ pour celui qui croit. Mais il n'impose rien, n'assène pas des vérités toutes faites. C'est une fantastique leçon d'humilité, de patience, d'écoute, de respect qu'il nous donne. Pour l'eunuque, Philippe est ce que l'on appelle dans la tradition chrétienne, finalement, un parrain, une marraine, un catéchète. Philippe est un témoin dont le seul souci est d'amener celui avec qui il est en dialogue à comprendre l'enjeu de l'évangile pour sa vie. Il est ce compagnon de route. C'est un mot que vous avez employé dans vos engagements, Anne et Didier, Cyril, Claire, Manon, Vincent. Et du passage d'Ésaïe sur lequel l'Éthiopien butait sans parvenir à le dépasser, Philippe en fait un point de départ pour ce qui est tout simplement une remarquable catéchèse. Commençant par ce texte, Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe raconte l'humiliation et l'élévation de Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme venu pour servir Dieu et donner sa vie pour les autres. Et l'énigme d'Ésaïe s'éclaire. Quel qu'a été le sens originel de ce poème? Nous ignorons en effet si Ésaïe annonçait Jésus, mais c'est la lecture que Philippe en fait. Il annonce que cette parole du prophète s'est accomplie dans le destin et la vie de Jésus-Christ. Et la difficulté devient tout à coup une bonne nouvelle. L'évangélisation est réussie. L'eunuque accueille cette façon de lire les Écritures comme suffisamment lumineuse pour renouveler sa méditation, sortir de l'impasse, pour accueillir la présence du Christ vivant dans sa vie. Il faut alors marquer par un signe fort cette grâce qui lui a été faite de rencontrer Dieu dans la personne de Jésus-Christ, ou plus exactement, la grâce qui lui a été faite de comprendre que c'était Dieu lui-même qui était venu à lui, à sa rencontre. Et l'Éthiopien demande le baptême. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'oued qui se trouve là n'est sans doute pas très profond, mais la descente dans l'eau, la remontée indiquée, évoque bien le baptême et sa symbolique d'abaissement, d'élévation, faisant référence à la mort et à la résurrection du Christ. Par notre baptême, nous sommes morts et nous ressuscitons à une vie nouvelle en Dieu. Alors je vous l'accorde, les quelques gouttes d'eau que l'on verse sur le front d'un baptisé gomme un peu cette symbolique plus perceptible dans la pratique ancestrale du baptême par immersion. Et aussi dans cette petite parabole que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire d'un pèlerin qui est allé voir un sage pour lui demander comment il fallait s'y prendre pour trouver Dieu. Peut-être que quelques-uns se posent cette question, ici. Le sage s'est levé et a demandé au pèlerin de faire exactement la même chose que lui. Il a marché jusqu'au bord d'un lac, suivi du pèlerin. Il s'est agenouillé au bord du lac, imité par le pèlerin. Il a baissé la tête pour se regarder dans l'eau, le pèlerin a fait de même. Et soudainement, le sage s'est redressé, il a pris la tête du pèlerin, il a plongé dans l'eau, puis il a attendu. Le pèlerin a commencé à s'agiter, et le sage a maintenu fermement la tête sous l'eau. Des bulles ont commencé à sortir de ses narines, le sage n'a pas bougé. Enfin, au bout d'un moment, il a ressorti la tête de son compagnon, et tandis que ce dernier reprenait son souffle, le sage lui a déclaré: le jour où tu désireras Dieu avec autant de force que tu as désiré de l'air lorsque tu étais sous l'eau, eh bien, ce jour-là, je te le promets, tu le trouveras. Alors où en est, chers amis, votre désir de Dieu? Vous avez peut-être été baptisé à 8 jours ou à 1 mois. Vous avez peut-être été baptisé à 15 ans avec d'autres jeunes catéchumènes, ou vous avez demandé le baptême lorsque vous étiez devenu largement adulte. Mais que signifie pour vous, pour votre quotidien, ce signe de la grâce de Dieu dont vous avez été marqué? Comment accueillir accueillez-vous chaque matin la vie nouvelle que le ressuscité vous offre? Êtes-vous simplement satisfait de quelques notions de Dieu que l'on vous a données, petit, au catéchisme, qui font partie de votre culture générale? Ou bien êtes-vous encore des quêteurs de Dieu, pressentant qu'une bonne nouvelle peut toujours bouleverser votre vie? Pendant que vous réfléchissez à ces questions essentielles, Philippe est reparti, appelé par les anges à d'autres rencontres, en d'autres lieux, vers d'autres horizons, laissant l'Éthiopien seul à sa méditation des Écritures, mais aussi maintenant à la contemplation du Christ qui a comblé sa vie et lui donne la joie. C'est le dernier mot de notre texte en grec. Il poursuivit sa route étant dans la joie, car c'est une autre présence qui l'accompagne sur son chemin désormais, et elle remplit son cœur au plus haut point. Mais assurément, il pose sur le monde, sur les hommes, sur son devenir, un tout autre regard. C'est la confiance et l'espérance qui l'habitent. La Bible ne nous dit plus rien de cet homme, ce qu'il était devenu. Mais je me demande si ce n'est pas lui qui, aujourd'hui, nous évangélise. Je crois que nous sommes tous ici au bénéfice de cette rencontre rapportée dans le livre des Actes. Ne serions-nous pas d'ailleurs tantôt l'eunuque, tantôt Philippe? À nouveau, nous sommes invités à nous plonger dans les Écritures, à nous y confronter, à avouer aussi humblement notre incapacité à la comprendre. Ce matin, notre temple n'est pas tout à fait désert. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'un guide. Alors, saurons-nous accueillir l'étonnante visite du Saint-Esprit qui veut nous faire rencontrer et contempler le Christ? Saurons-nous être des guides pour nos enfants, nos filleuls, mais aussi des compagnons de route, les uns pour les autres, sur le chemin de la foi, sur le chemin du désir de Dieu? Je n'en doute pas, mon frère, ma sœur, sur ton chemin, tu croiseras un ange du Seigneur, Philippe, ou quelqu'un d'autre, qui viendra te redire la seule vérité, attestée par ton baptême, et sur laquelle tu peux fonder ton existence. Dieu a prononcé sa bénédiction sur ta vie, sur ta personne, sur ton histoire, et rien, rien, ni la vie, ni la mort, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, n'ont rien, ne pourront l'amener à renier sa parole pour toi.